Comment un athlète se prépare-t-il pour tenter de participer au marathon des Jeux Olympiques? Félix Bourg a réalisé les minima au marathon de Valence il y a quelques semaines en courant le marathon en 2h, 6 minutes et 46 secondes. Et il nous explique comment il a gagné plus de 4 minutes, quelles sont ses stratégies et à quoi ressemble son quotidien pour aller aux Jeux Olympiques. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance qui proposent une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons donc une deuxième fois à la rencontre de Félix Bourg. Je l'avais reçu une première fois en avril 2022. Il rêvait des Jeux, mais à l'époque, sur 10 000 mètres ou marathon. Mais il n'avait pas encore couru de marathon et ne savait donc pas s'il pouvait courir le marathon à 20,5 km/h, soit 3 minutes 04 au kilomètre. Depuis, il s'est beaucoup entraîné, il a mis en place de nombreux ingrédients qu'il nous détaille justement dans cet épisode. Il est par exemple devenu plus précis dans la nutrition du quotidien, mais aussi en course. Ses entraînements ont évolué. Il nous parle notamment de son volume d'entraînement, de ce qu'il mange, de son sommeil aussi, de la récupération, de l'aspect mental aussi, de comment il voit la course et de comment il voit le marathon des Jeux Olympiques et comment lui, il se projette sur cette course à laquelle il n'est pas encore sûr de participer. Même si pour l'instant, il fait partie des qualifiés, car ses efforts ont payé. Et il a fait largement mieux que les minima en s'offrant un finish incroyable, prouvant qu'on peut finir un marathon à toute vitesse. Il nous explique dans cet épisode à quelle vitesse il a couru les 7 derniers kilomètres. Alors voici ses secrets, son quotidien, ses habitudes, ses conseils. Et vous allez constater que pour autant, il n'a pas fait une croix sur certains aliments qui pour autant pourraient paraître comme déconseillés. Et avant de vous laisser écouter ma discussion avec Félix, je veux remercier Coro qui sponsorise cet épisode et ce podcast cette année encore. Dans ce podcast, nous vous partageons des conseils de sportifs, de coachs, de spécialistes qui valorisent une alimentation équilibrée, des produits naturels, des ingrédients bruts à cuisiner, des céréales, des oléagineux. D'ailleurs, dans cet épisode, Félix nous parle d'oléagineux qu'il mange ainsi que du beurre de cacahuète qu'il consomme lui aussi tous les jours, un peu comme moi. Des ingrédients de base que vous pouvez acheter en ligne directement chez Coro, K-O-R-O.fr, la boutique pour les passionnés de produits sains. Coro propose plus de 1200 produits. La marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous avons négocié avec une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique Coro, K-O-R-O.fr, et utiliser le code HAPPYRUN5 pour en profiter. Je remercie tout particulièrement Coro de soutenir ce podcast et je vous laisse maintenant avec ma discussion avec Félix. Allez, c'est parti! Bonjour Félix.
Bonjour à toi.
Comment vas-tu?
Bah écoute, super. Hein, ça récupère tranquillement depuis le marathon, même si c'était un peu dur physiquement de reprendre vraiment le haut niveau et tous les entraînements que ça nécessite, mais on s'y remet tout doucement, quoi.
Ouais, surtout que c'est une année quand même potentiellement incroyable. Je dis potentiellement parce que t'as un doute encore sur le déroulé de l'année.
Ouais, il y a encore quelques doutes parce que je suis sûr de rien finalement pour le moment, mais en tout cas, dans tous les cas, ça aura été une année incroyable pour moi puisque j'ai battu mes records un peu sur toutes les disciplines que j'avais dans le viseur, donc c'était le plus important finalement, c'était de progresser encore et de continuer sur la bonne voie, quoi.
Alors, on en discutait juste avant, on a diffusé un épisode en avril 2022. En avril 2022, t'étais pas encore marathonien.
Ouais.
Tu courais, t'avais fait quoi jusqu'à ce moment-là en fait, pour replacer un petit peu le contexte?
Bah écoute, j'avais fait pas mal de semi-marathons, j'en avais fait déjà quelques-uns et je m'étais fixé comme objectif de faire un semi sous les 1h02 avant d'entamer avant de préparer mon premier marathon.
Ouais.
Et du coup, c'est vrai que j'avais réussi à faire 1h1:30 à Valence en 2021, il me semble, c'était fin 2021. Mmh. Et du coup, l'année qui a suivi, j'ai voulu tenter l'aventure pour le premier marathon, quoi.
Ouais. Et donc pour donner un ordre d'idée quand même, là tu parlais de te remettre, etc. Valence, c'est quand même une terre où ça va super vite, hein, faut le dire.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Je te laisse annoncer ton temps. D'abord, tiens, sur le semi de Valence, parce que c'était en octobre, hein, le semi de Valence.
Ouais, du coup c'était un peu en plein milieu de la prépa marathon.
Ouais.
Et j'avais besoin d'un objectif intermédiaire pour me jauger un peu, voir si on avait bien bossé, etc. Et du coup, suite à mon premier stage en altitude à Font-Romeu de la prépa, je suis redescendu 3 jours avant sur Barcelone pour retourner en plaine avant de me diriger vers Valence et le semi-marathon, où j'ai réalisé 1h00:39. Du coup, ça m'a permis d'améliorer encore ma marque de référence et de voir évidemment que j'étais très en forme, quoi.
Ouais. Alors à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, c'était le quatrième performeur français de tous les temps.
D'accord, je sais. Non, je savais pas.
Bah, moi, d'après mes recherches, quatrième performeur français de tous les temps. Sacré, alors sacrée vitesse. Mais ensuite, derrière, t'as enchaîné donc sur le fameux marathon que tu préparais, le marathon de Valence, qui était ton
Ouais.
deuxième marathon, c'est ça?
C'était mon deuxième marathon et du coup l'objectif là c'était vraiment de faire les minima pour les Jeux en sachant que c'était déjà il fallait quand même que je gagne déjà 2 minutes sur mon chrono de référence parce que j'avais réalisé 2h10 40 il me semble pour mon premier marathon et du coup j'ai réussi à aller chercher 2h06 46 donc c'était encore mieux que ce qu'on avait prévu finalement
Ouais.
donc c'était super.
2h06:46. Troisième français, minima olympique explosé parce que c'était 2h08:10 les minima olympiques. Donc là, tu étais vraiment bien au-dessus, bien en dessous des minima. Et alors, moi, j'ai halluciné en fait. C'est ton 5 km entre le 35e et le 40e kilomètre. J'ai vu ça en 14 minutes 12.
Ouais, c'est ça, ouais. Bah écoute, même moi j'ai du mal à l'expliquer parce que c'est vrai que c'est tellement rare de voir des marathoniens finir aussi fort que pour mon deuxième marathon. Je pensais pas avoir déjà aussi bien apprivoisé la distance, quoi, on va dire. Et finalement, en fait, j'ai couru un peu sur la réserve jusqu'au 35e, jusqu'à ce que le champion d'Europe en titre allemand Richard Ringer accélère assez violemment. Et là, j'ai pris la décision, du coup, en une fraction de seconde, parce que forcément, t'as pas. Quand un mec démarre à 2,50 au kilo, à 7 km de l'arrivée, ou t'y vas pas, quoi. Et du coup, j'ai pris la décision de partir avec lui, et ça s'est révélé être un choix payant, parce que finalement, ça a tenu jusqu'au bout. Je crois que j'ai fait 2,50 de moyenne sur les 7 derniers kilomètres 200. Donc c'est aussi ce qui m'a permis, du coup, de rattraper celui qui était troisième français de la course, Morad Hamdouni, et du coup, de prendre sa place. Dans les 3 premiers Français, quoi.
Ouais, Morad Hamdouni en plus qui est le recordman de France du marathon. Hein.
Ouais, c'est
Or
ça.
sur une autre course il avait fait, mais donc c'est un grand nom quand même. Ce qui fait que pour l'instant, donc sur ce fameux minima pour les JO, t'es en position d'aller aux JO pour l'instant.
Pour l'instant, je suis sélectionnable. Et du coup, c'est vrai que c'est pour cette raison que c'était très important de finir dans les 3 premiers Français au marathon de Valencia. Parce qu'on sait tous que c'est un peu le The Marathon en ce moment quand même pour réaliser un chrono dans le sens où déjà tu as le parcours qui est plat comme tu le disais au début, mais en plus de ça tu as très très souvent les conditions parfaites. Donc nous on a eu de la chance encore ce jour-là, c'était vraiment top. Et il y a une telle densité et des lièvres qui font bien le boulot pour t'emmener sur les bonnes bases que finalement tu n'as rien d'autre à penser que d'attraper tes ravitaillements tous les 5 km et de te concentrer sur ce que tu as fait à l'entraînement. Donc c'est vraiment top pour les marathoniens parce que tu sais que tu vas être dans les conditions idéales pour perfer, quoi.
Ouais, mais c'est quand même, enfin, moi, tu vois, quand je vois la vitesse, c'est extraordinaire quand même. Tu t'imaginais à une époque être capable de courir aussi vite un marathon?
Non, c'est vrai que j'avais du mal à. Enfin, en tout cas, oui, je m'imaginais courir un jour en 2h06, mais déjà pas aussi rapidement, parce que là, c'est vrai que je suis quand même encore novice, hein. C'était seulement mon deuxième, donc je pense que j'ai encore pas mal de petites choses à améliorer. Et à apprendre surtout parce que c'est une discipline à maturité tardive et j'ai pas encore 30 ans donc je pense que j'ai encore un avenir sur cette discipline. Et non, je m'imaginais pas surtout terminer aussi fort parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a le mur du 35e, etc. Et finalement, même à l'arrivée, j'étais pas, tu vois, je sentais que j'en avais encore un peu sous le. J'aurais pu faire même plus que 42 km ce jour-là, je pense, tu vois. Donc finalement, quand t'es bien préparé, y a aucune raison de taper le mur ou alors de ne pas percer, tout simplement, quoi.
Ouais. Alors là, tous ceux qui sont en train d'écouter, qui préparent. Alors, en plus, je le dis parce qu'on diffuse, on enregistre le 16 février, donc on diffuse juste dans la foulée. Hein. Là, c'est vraiment du quasiment direct. Moi, je fais juste un petit montage. On est à un mois, tu vois. Il y en a qui vont courir dans un mois le marathon de Rome, par exemple. On est à
Ouais.
quoi? On est à 2 mois de Paris. Paris, tu vois, dans ces zones-là.
C'est ça, ouais.
Donc il y a tous ceux qui sont en pleine prépa marathon qui disent attends, mais comment on fait, tu vois, c'est quoi la stratégie? Alors bien sûr, toi tu as un volume d'entraînement, tu as un passé alors dans le premier épisode, tu avais expliqué ton passé, donc je renvoie tout le monde au premier épisode pour expliquer tout ce que tu as fait, parce que courir le 5000 pour toi, c'est un truc, c'est j'ai envie de dire à ces vitesses-là, c'est un truc habituel, hein, dans ta carrière.
Ouais, c'est ça, ouais. Bah, j'ai fait 13-15 sur 5000, donc ça fait à peu près ça fait un peu moins de 2, ça fait 2,39 au kilo, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc, c'est vrai que j'ai développé pendant longtemps, on va dire, mes qualités de vitesse, entre guillemets, parce que ça reste quand même du long. Mais par rapport à un marathon, tu développes vraiment tes qualités de vitesse sur le 5 bornes ou sur 3000 et même sur 10 000 mètres, hein, finalement. Et c'est des disciplines que j'ai toujours décidé de garder à mon programme, malgré le fait que je sois passé sur un marathon. Donc ça me permet à chaque fois de redescendre pour redévelopper ma vitesse avant de remonter sur du plus long, comme du semi-marathon ou du marathon, quoi.
Ouais, tu fais encore du cross?
Ouais, bien sûr. Bah là, je viens de gagner le Cross Ouest France, qui est quand même un des derniers gros cross français qui survit, on va dire, parce que c'est vrai qu'il n'y en a plus des masses. Mais sinon, je fais toujours la saison de cross avec mon club du Racing Multiathlon. D'ailleurs, on est triple champion de France par équipe, donc c'est devenu un peu une tradition pour le club et pour moi. Donc, non, je pense que c'est important de garder aussi le cross, dans le sens où c'est la seule discipline finalement où tu oublies un peu le chrono et tu peux te focaliser sur tes sensations pour travailler d'autres choses, travailler un peu plus musculairement aussi, parce que ça va être des parcours souvent dans la gadoue, un peu avec des montées-descentes. Donc, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de faire et c'est pas plus mal, même mentalement, quoi.
Ouais, puis c'est rigolo le cross, c'est le premier qui passe la ligne et c'est le gagnant, quoi. C'est pas le. Il n'y a
Ouais, c'est
pas
ça,
ces classements relatifs,
c'est
quoi.
un jeu, quoi.
C'est la course des gamins. En fait, c'est vrai que quand on est gamin, on fait tous du cross. Alors, le cross, c'est des. Moi, j'en ai fait en primaire. Il y a le cross du collège qui a laissé des mauvaises traces et les lycées chez certains, hein, des mauvais souvenirs ou des bons souvenirs chez d'autres personnes.
Ouais.
C'est vrai que moi, j'ai redécouvert le cross très tardivement quand je me suis remis à courir. Mais tu parles, j'avais presque. Plus de 40 ans.
Ouais.
Ouais, j'ai trouvé ça dur, mais tellement dur. Je me dis, mais attends, tu pars à fond, t'accélères tout le temps, ça s'arrête jamais.
C'est ça.
C'est vraiment. C'est quoi? C'est la vitesse? C'est mental? C'est vraiment quoi pour toi le cross?
Bah pour moi, le cross, c'est une des disciplines les plus difficiles déjà au niveau de pour apprendre sur soi-même, en fait, déjà. Parce que c'est vrai que tu flirtes toujours un petit peu avec ta limite, en sachant que bah tu peux pas non plus trop accélérer, parce que sinon tu sais que tu tiendras pas jusqu'au bout. Donc ça t'apprend vraiment à gérer ton effort. Et même si tu peux apprendre aussi à gérer ton effort sur un 10 km ou sur un 5 km, ça va être quand même en général des courses assez plates. Alors que là, en plus de tout ça, il faut que tu arrives à gérer ton effort et ton allure par rapport au parcours. Donc tu as des obstacles qui vont se présenter devant toi, et toi, le but, ça va être justement de franchir tous ces petits obstacles et de rallier la ligne d'arrivée le plus vite possible. Donc non, finalement, je trouve que c'est assez marrant, et puis c'est bien pour travailler les fondations du reste de la saison, je trouve aussi. Parce que comme je disais, il y a tout un travail musculaire quand même. Tu vas bosser un petit peu différemment, même au niveau de la proprioception, où tu vas avoir des appuis un peu moins stables. Ça va être souvent dans la boue, donc ça va te permettre de bosser les muscles profonds aussi au niveau des chevilles. Et forcément, après, ça peut se retranscrire sur la route et sur la piste, quoi.
Ouais. Bon, déjà, bon, on va dire un des secrets. Bon, c'est vrai que toi, t'as ton passé cross, 5 km, 10 km et tout. Hein, t'as des vraies qualités de vitesse. Et donc, ça veut dire que tu les continues à les travailler tout le temps, hein, pour justement pouvoir les transférer ensuite sur le marathon.
Ouais, je dirais même au-delà de les travailler, j'essaye même de les développer, hein. Donc essayer de toujours, je me rappelle toujours à peu près des temps que j'ai fait l'année d'avant. Donc bon, il y a quand même des séances clés dans des prépas que tu vas retrouver assez fréquemment au cours de l'année. Et ça te permet de jauger par rapport aux années précédentes et tout. Et c'est vrai que moi j'aime bien regarder un petit peu l'évolution, quoi.
Bon, alors, bon, on n'a pas tous ta qualité de vitesse, mais on va le dire, n'oubliez pas de travailler la vitesse pour faire du marathon. Et en plus, tu sais, je l'ai dit, c'est un jour sur du trail aussi. C'est un rappel que je fais, parce que j'ai raconté un jour cette anecdote sur du trail, même sur
Ouais.
des 100 miles. J'ai vu un jour la vidéo d'une finisheuse de la Western Race, je crois, tu vois, qui a 100 miles, qui a
Ouais.
fini, tu sais, il y a une limite de temps, faut courir en, je crois que c'est 16h ou 14h, tu vois, maxi. Et,
elle
est passée pour, ou tu vois, 18h, mais je sais plus le temps exactement. Elle est arrivée, si t'as pas la, tu sais, t'es pas finisher si tu passes pas dans le temps, maxi. Et elle est arrivée pour 14 secondes. Et en fait, elle sprint, tu sais, sur les 200, 300 derniers mètres, elle arrive à sprinter, à accélérer. Après 100 miles, donc 160 bornes. Donc, tu vois, je dis, même sur du trail, et l'autre jour, j'ai discuté avec quelqu'un aussi qui avait des barrières horaires sur du trail, où on a une tendance à courir lentement, on dit bah il faut durer. La vitesse, elle reste quand même un élément qui est primordial, quoi. Alors toi en plus,
ça peut toujours servir, hein. Ça peut toujours servir, c'est clair.
Ouais. Bon, toi en plus pour battre ces temps et pour arriver à passer les minima, on comprend bien en plus l'objectif. Mais c'est vrai que on a une tendance un peu à l'oublier, à devenir un peu des tracteurs quand on fait la prépa marathon. bon, toi c'est un tracteur très relatif, hein, quand même, parce que vu la vitesse à laquelle tu cours, on peut pas appeler ça un tracteur.
Ouais, mais après tu vois finalement le marathon, enfin c'est vrai que pour nous. C'est des allures autour de 3 ou kilos, à peu près 20 km/h. En fait, on a tellement l'habitude de courir autour de 22-23 km/h que pour nous, ça en devient presque lent, si tu veux.
Ouais.
Ça devient une allure qui va vraiment être notre seuil, quoi, on va dire 80% à peu près de la VMA, ça représente.
Ouais.
Et c'est vrai que quand tu es très à l'aise sur ce type d'allure, même sur des efforts de 2 heures, et bah finalement, si tu as développé tes qualités de vitesse, ça peut te permettre justement de finir très fort comme je l'ai fait pendant ce marathon de Valencia, quoi.
Ouais. Tiens, alors, tant que tu parles de ça, il y a un point quand même. Sur les entraînements, c'est quoi pour toi une vitesse d'entraînement quand tu fais un footing, tu vois, un truc cool?
Bah, ça va vraiment dépendre, hein. Tu sais, moi, ça peut aller du 5-30 au kilo si vraiment j'ai besoin de récupérer et que c'est le lendemain d'une grosse séance ou le soir quand j'ai fait une grosse séance le matin. Et ça peut aller, des fois, ça m'arrive de faire des footings à 16 km/h, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment variable selon ce que mon entraîneur veut travailler à ce moment-là, quoi. Mais je pense que la clé, finalement, pour progresser, c'est vraiment de tout le temps varier les allures, quoi. C'est pas seulement courir tout le temps à 15 à l'heure, tout le temps à 16. C'est justement, il faut avoir toute cette palette-là de... Tu sais, il y a Mayedine Mekissi qui est triple champion olympique du 3000 steeple. Enfin, pas champion olympique, mais qui a été 3 fois médaillé aux Jeux olympiques. Il me disait, pour lui, un bon athlète, il doit savoir courir de 10 à 30 km/h.
Ouais.
Et c'est vrai que lui, je le voyais souvent. On allait au canal à Reims faire des footings ensemble. Et des fois, on démarrait. Ça nous arrivait de passer au premier kilo à plus de 6 minutes. Hein.
Ouais.
Donc, non, mais ça veut rien dire après. Et par contre, il était capable de courir à plus de 22 km/h avec des barrières sur un 3000 steeple, quoi.
je sais plus si c'est lui ou un autre que j'avais vu un jour. Je m'étais étonné sur des, j'avais cité sur Strava, on a vu des temps de passer avec des trucs, mais à 7 minutes au kilo. En disant,
c'est possible, ouais.
Ah ouais. Donc, et là, c'est vraiment lent parce que tu me dis 5:30, ça fait du 11 km/h, mais 7 minutes au kilo. Moi je connais beaucoup de gens qui font des footings beaucoup plus vite alors qu'ils n'ont pas ta pointe de vitesse, donc c'est aussi ce qui est intéressant de voir la palette, hein, que vous pouvez travailler, et c'est vraiment intéressant ces exemples, je trouve.
Et ça me fait rigoler parce que j'entraîne un petit peu depuis 1 ou 2 ans, et c'est vrai que j'ai entraîné 2 marathoniens au cours de mes expériences, quoi. Et il y en a un sur les deux qui a fait 2h59 là à Valencia, donc pour situer à peu près son niveau. Et lui, je lui disais, c'est important que tes footings, tu les fasses autour de 5,50. Enfin, tu sais, j'avais calculé par rapport à sa VMA, ça faisait autour de 5,50 et 6 au kilo normalement.
Ouais.
Et il me disait, mais non, moi, mes footings, je les fais à 4,30. Et moi, je lui disais, mais non, moi, je fais 2h06, et mes footings, des fois, je les fais à 5,30. Donc, toi, tu peux pas les faire à 4,30 si tu fais 2h59. Et lui, ça lui paraissait fou, quoi. Et du coup, j'étais obligé de lui montrer, de lui donner les preuves et tout, pour lui montrer que même moi, je faisais des footings 40, 45 minutes, 50 minutes à 5,30, quoi. Sinon, il voulait pas le faire, quoi.
Ouais. Ouais, j'ai même trouvé une fois une stat comme quoi Kipchoge faisait des footings à 10 km/h. Donc, à 6, hein.
Voilà.
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de le rappeler parce que c'est vrai qu'on le voit. Et puis, je vois des fois des discussions sur les réseaux avec des gens qui disent « Ah, mais moi, je peux pas courir à 6, c'est trop lent pour moi et tout. » Bon, c'est intéressant. Je te remercie d'avoir fait ce rappel parce que quand même, d'avoir cité cet exemple-là, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, il y a une question. C'est parce qu'on parle, on est dans un podcast sport, nutrition et tout. Moi, je me rappelle, tu sais, il y avait 2 ans, quand on avait parlé de ta nutrition, à l'époque, j'ai l'impression que tu te cherchais un peu, tu n'étais pas super calé, etc. Est-ce que ça fait partie des choses que tu as beaucoup travaillé depuis les 2 dernières années-là?
Ouais, j'ai énormément travaillé sur ce point, notamment dans l'optique du marathon, parce que c'est vrai que Enfin, j'ai compris, on va dire que j'ai compris vraiment après mon premier marathon que c'était le point sur lequel il fallait mettre l'accent si tu voulais vraiment être performant un jour sur cette distance. Alors, au-delà de l'entraînement et tout ça, l'aspect entraînement-récupération, déjà, si tu fais pas ce qu'il faut au niveau nutrition, bah, tu te tires déjà une balle dans les jambes parce que tu sais que tu n'iras pas au bout sur des distances où tu vas courir pendant aussi longtemps. T'as pas le choix, quoi. Il faut t'alimenter, il faut t'hydrater bien. Et du coup, j'ai fait pas mal de tests un peu scientifiques, bah justement, pour voir ce que je dépensais au niveau des glucides par heure, pour savoir à peu près combien il fallait que je mette dans mes bidons, etc. Et au niveau des gels aussi qu'on prend pendant la course. Et du coup, bah, c'est ce qui m'a aussi indéniablement aidé à gagner 4 minutes sur marathon.
Ouais. Tu dis que tu as fait des tests, c'est-à-dire que tu as fait quoi? Tu as mesuré, tu as pris des capteurs, vous faites comment ça à votre niveau en fait?
Non, c'est un test qui a été fait dans un labo à Font-Romeu par une équipe de scientifiques qui m'a suivi un peu dans un protocole que j'avais mis en place en hypoxie,
Ouais.
où là, le but, en fait, c'était de faire des footings à 5000 mètres à la base. C'est des footings d'une heure à très basse intensité, mais à 5000 mètres d'altitude. Et du coup, avant de faire ce protocole-là, eh ben, ils te font toute une batterie de tests. Et du coup, bah, on avait calculé que sur un test VO2 max, que moi je consommais à peu près, je sais plus, je crois que c'était autour de 90 grammes de glucides par heure. Et du coup, bah, c'est une donnée qui a été intéressante pour moi, du coup, derrière, pour travailler un peu avec ma nutrice, ce qu'on allait mettre dans mes bidons, est-ce que j'allais prendre comme gel, etc., quoi.
90 grammes par heure.
Ouais, c'est à peu près ça, ouais.
Ça en fait du
Sur
gel quand
les
même, hein.
allures, sur des allures, ouais, c'est vrai que nous, on court quand même à 20 km heure, donc je pense qu'on dépense aussi pas mal, mais.
Ouais. Parce que 90 grammes, un gel, ça fait combien? Ça fait.
Un gel, je crois que tu es à peu près à 40 grammes. Et sur les bidons qu'on prend, bon, après, on a la chance d'avoir des bidons tous les 5 km sur des tables.
Ouais.
Alors, ça, c'est vrai que malheureusement, c'est pas le cas pour les amateurs, parce que sinon, il faudrait 50 000 bouteilles. Et là, forcément, c'est pas possible. Mais du coup, sur les plateaux élites, en gros, il y a des tables avec 3 bouteilles dessus. Et bah, après, tu peux customiser ta gourde pour la reconnaître. Et dans ces bidons-là, on peut rajouter à peu près, ça représente à peu près 20 grammes. Non, ça représente 80 grammes, mais tu bois jamais toute la bouteille et tu mets à peu près la moitié. Donc en gros, ça fait 40, tu bois la moitié des 40. Donc ça fait à peu près 20 grammes tous les 5 km, quoi, de glucides que tu peux ingurgiter, quoi. Donc tu fais ça sur 1 heure. Sur 1 heure, on a déjà pris 4 ravitaillements. Donc du coup, on est dans les bonnes bases, quoi. Sachant que des fois, tu bois un peu moins aussi. Enfin, ça dépend des moments pendant la course, quoi.
Ouais. Même dès le début, tu le fais. C'est-à-dire que au 5, tu me dis tous les 5 km, on a une table. C'est-à-dire au 5, kilomètre 5, déjà, tu te ravitailles ou pas?
Ah oui, dès le premier, on commence déjà à se ravitailler, bah justement dans l'optique de la fin de course où plus t'auras bu, mieux tu seras, logiquement. Parce que c'est vrai que tu perds aussi beaucoup d'eau en courant, donc je crois, enfin je sais plus exactement au niveau des calculs qu'on avait fait, mais tu avais quand même une baisse de rendement de quelques pourcents et ça devenait assez important à la longue sur 2 heures. Donc encore plus pour les gens qui courent 3 heures ou 4 heures, quoi.
Ouais. Donc ça veut dire que toi, en fait, t'es comme une Formule 1. C'est-à-dire que tu connais ta consommation de glucides, ta consommation d'eau, t'as tous ces éléments-là en
Ouais,
tête,
c'est
en
ça.
fait, quand tu te prépares.
Bah, je l'ai pas fait pour mon premier marathon, ça m'a porté préjudice et du coup j'ai vraiment mis l'accent là-dessus pour mon deuxième, histoire d'être sûr que d'éliminer déjà ce secteur-là si jamais ça marchait pas. Et là, c'est vrai que vu que ça a super bien marché, que ça m'a même permis de finir très très fort et comme je te disais, je pense que j'aurais même pu faire plus que 42 km ce jour-là, c'est qu'on a vraiment hyper bien calculé tout ça, quoi.
Ça va être sacrément satisfaisant quand même de dire en optimisant tous ces éléments parce que c'est vrai que j'en ai parlé avec des entraîneurs, tu vois, on a fait des épisodes sur la science, sur les data scientists et tout, tu vois, avec Anaël Aubry par exemple, on avait fait un épisode sur les
Ouais.
mesures, sur tous les trucs, en disant ben il y en a certains qui courent bien, mais on peut optimiser tel domaine, certains vont optimiser l'entraînement, certains vont optimiser ça. Ça va être sacrément satisfaisant quand même, j'imagine pour toi de dire là j'étais capable de trouver en fait des éléments qui me permettent de progresser et d'atteindre un objectif potentiellement. Alors, t'es pas encore au JO, mais en tout cas, d'être en mesure de les atteindre.
Bah de toute façon, je savais que j'avais 2 minutes à gagner, que enfin, pour moi, ça me semblait déjà beaucoup, 2 minutes sur un deuxième marathon. Je trouvais. Moi, je me rappelle avoir dit plusieurs fois à mon entraîneur, tiens, c'est dommage, j'aurais préféré que ce soit mon troisième marathon pour avoir un peu plus d'expérience. Et finalement, vu que j'avais pas le choix, que j'étais un petit peu pris par le temps, si je voulais tenter de me qualifier pour les Jeux, bah, connaissant aussi le niveau du marathon en France aujourd'hui, qui est vraiment exceptionnel. qui a jamais été aussi relevé dans l'histoire. J'étais aussi conscient qu'il faudrait probablement courir moins de 2,8 pour aller au jeu, quoi. Donc, il a vraiment fallu que j'optimise tous les petits détails, et c'est ce qui a fait que je suis arrivé à cette performance-là aussi. Parce que bon, on parle de la nutrition, mais il y a aussi d'autres secteurs sur lesquels j'ai dû travailler pour progresser, forcément.
Ouais. Alors on va rester sur la nutrition, on parlera des autres secteurs un petit peu à la fin, on fera un petit aparté. Parce que là, on a dit un peu nutrition pendant la course, donc tu connais ta consommation de flotte, tu connais ta consommation de glucides, tu as tous les bidons qui sont prêts et tout. Donc c'est-à-dire que là-dessus, tu te dis, j'ai mon protocole, tout est validé, ou tu vois encore des choses, tu te dis, ah, je pourrais quand même améliorer ça pour le prochain. Sachant que je sais pas si tu en as déjà un qui est programmé, là, marathon, un autre marathon qui est programmé, ou ouf, comment ça se passe
Bah
là?
écoute, j'ai envie de te dire celui des jeux, mais après là, ça dépendra pas de moi.
Ouais.
Et d'ailleurs, celui des jeux, ce sera encore plus compliqué à programmer parce que finalement, il y a un parcours qui est hyper. Nous, on a l'habitude de courir sur des billards et là, ça va être 450 mètres de dénivelé positif. Donc ça, il n'y a aucun athlète aujourd'hui dans le monde à ce niveau-là qui a l'habitude de courir sur ces parcours-là. Et en plus de tout ça, il y aura la chaleur parce que bon, le 10 août à Paris, il peut faire très chaud, surtout que le départ va être à 8 heures, donc l'arrivée autour de 10h10, il peut commencer à faire très chaud. Donc forcément, il faudra encore optimiser tout ça, mais en s'entraînant, en faisant des tests, en s'entraînant dans des conditions déjà difficiles, pour voir si quelque part on perd pas encore plus d'eau, et si jamais il n'y a pas encore plus de sucre qu'il faudrait ingurgiter pour être sûr de ne pas avoir de coups de mou pendant la course, etc. Et si c'est pas le marathon des Jeux, moi j'aurais bien envie de peut-être éventuellement faire New York.
Ouais.
Donc un marathon qui est réputé aussi comme étant difficile. Donc ouais, je pense qu'il y aura aussi des axes à travailler là-dessus. Ouais.
Mais c'est
Alors
vrai
après, tu
que...
peux passer par des capteurs. Je pense que tu as déjà entendu parler forcément des capteurs de glycémie qu'on peut mettre sur le bras et du coup qui permettent de calculer vraiment à la minute près ce que tu as dépensé. Et ça, c'est vraiment poussé à 100% pour voir à tel moment combien t'as dépensé sur cette partie-là de la séance. Si à la fin tu dépenses plus qu'au début, là, ça permet vraiment d'avoir une idée encore plus précise, quoi.
Ouais, on a fait deux épisodes sur le sujet avec Bruno Obi, notamment, on avait fait un. Avec Aude Bazin aussi, on avait parlé justement de l'apport des capteurs, de ce qu'on pouvait faire, tout. Donc, ceux qui sont intéressés par cette histoire des capteurs, je les renvoie sur les. Alors, allez voir dans les archives, en fait. Il y a des trucs sur les capteurs de glycémie, l'information qu'on peut avoir, etc. Et puis, en fait, il y a plein d'athlètes, mais pas forcément que du très haut niveau, hein, des amateurs éclairés et tout aussi, qui les ont mis, qui les mettent sur des périodes d'entraînement, justement pour tester un petit peu ce que tu viens de dire, un petit peu la réaction qu'on peut avoir, comment on peut avoir ça. Mais j'ai envie de dire, c'est quand même super compliqué d'arriver à simuler, tu vois, c'est une question qu'on avait, avec Anaël Aubry, on en avait parlé justement, parce que lui, il avait vécu ça en triathlon pour des Jeux Olympiques, sur l'histoire de la chaleur, de l'humidité qu'il peut y avoir aussi, sur la capacité enfin la transpiration à, comment dire, à avoir la bonne température, quoi, pas être en surchauffe. C'est super compliqué quand même, arriver à simuler ça, à gérer ça, tu vois, au niveau expérience en fait.
Bah, écoute, déjà au niveau de la température, moi je sais qu'au Crêpes de Reims, on a la chance d'avoir une thermoroom. Donc ça permet de simuler exactement les conditions dans lesquelles tu vas évoluer en compétition. C'est-à-dire que c'est une espèce de petite pièce, un peu comme un sauna ou un peu plus grand où tu peux mettre un tapis de course ou un vélo dedans. Et tu peux régler 30, 40, 50 degrés. Tu peux régler aussi l'humidité. Donc à ce moment-là, ce serait intéressant par exemple de faire le test avec ce capteur dans ce type de milieu dans lequel tu vas évoluer à l'entraînement pour avoir déjà les données, quoi. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y en a pas partout.
Ouais, bon, mais c'est vrai que ça fait partie des outils, hein. C'est vrai qu'il y a des, ça fait partie des outils un peu incroyables qui sont à votre disposition. Et pour arriver à tester ça, donc ça fait partie comment dire, des outils en fait qui vont te permettre d'affiner ta stratégie de nutrition. Alors, je te le souhaite pour les JO de Paris, quoi.
Ouais, il y a ça, puis après il y a beaucoup plus simple aussi, hein. Il y a la fréquence cardiaque, aujourd'hui c'est accessible à tout le monde, je veux dire, moi aujourd'hui, tous les footings, enfin tous les entraînements que je fais, à chaque fois j'ai ma ceinture cardio avec moi pour, et plus tu la mets, plus tu vas avoir de données et d'informations au cours des saisons, et plus tu vas savoir assez précisément si t'es bien en ce moment, si t'es pas bien, et surtout comprendre pourquoi, donc c'est un outil qui est déjà intéressant pour calculer pas mal de choses. Parce que déjà, dans un milieu où il va faire plus chaud, bah, tu vas pouvoir voir à peu près par rapport à ta pulse marathon quelle allure ça représente, tu vois, tout simplement. Parce qu'on a tous une, quand on a déjà fait du marathon, on a une idée assez précise de la zone cardiaque dans laquelle on évolue. Alors moi, par exemple, ça va être autour de 170 pulsations par minute. Donc là, à Valence, ça représentait du coup bah, du 3,00 au kilo. Mais peut-être que si j'avais fait ça dans un milieu un peu plus où il fait un peu plus chaud, 30 degrés, bah, ça aurait peut-être représenté du 3,10. Alors le fait de faire ce test-là, bah, ça peut permettre déjà d'avoir une idée de l'allure que tu veux faire si tu veux pas passer à travers ton marathon le jour J, quoi.
Ouais, c'est vraiment intéressant tous ces détails. Sur le, il y a un autre truc quand même, tu vois, tu parlais du dénivelé et autres. Tu dis, bon, toi, t'as l'habitude de courir sur du plat, t'as fait de la piste. Le cross, bon, c'est instable, mais il n'y a pas beaucoup de dénivelé quand même, il y a des petites bosses, etc. C'est-à-dire que tu dois programmer en fait des entraînements pour te renforcer, pour gérer ces côtes, ces montées. C'est quelque chose que tu as. Alors, tu sais pas si tu y vas, mais c'est déjà quelque chose que tu as anticipé un petit peu ou pas, potentiellement?
Ouais, alors c'est vrai que je m'étais rendu compte que l'année dernière, sur ma première prépa marathon, tu sais, je regarde des fois un peu le dénivelé que je fais par semaine,
Ouais.
la moyenne de ce dénivelé-là, et j'étais plutôt autour des 500, 600, des plus par semaine, et c'est vrai que sur des semaines à 180, ça faisait vraiment pas beaucoup, quoi.
Ah ouais.
Parce que j'avais beaucoup, là, je courais beaucoup sur le canal, tu sais, je fais beaucoup de vitesse aussi sur la piste, donc forcément, bah, c'est des moments où tu fais pas de dénivelé du tout. Et du coup, on a essayé de travailler là-dessus, justement, pour augmenter cette moyenne plus autour des 1000, 1500. Alors là, enfin, je le faisais pas tout le temps parce que forcément, tu peux pas passer de 500 à 1500 d'un coup. Mais des fois, sur 2, 3 semaines, ouais, je me faisais des blocs comme ça où je faisais que des footings en montée-descente et ça me permettait bah, d'augmenter ma moyenne de 10 plus par semaine et du coup, bah, de renforcer mes cannes naturellement en fait et de préparer déjà mon corps à ce type de parcours, quoi.
Ouais, tu vas devenir trailer à cette allure.
J'irai pas jusque-là, mais.
Non mais c'est vrai. En plus, c'est vrai, tu parlais aussi marathon de New York. Ça fait partie des tous ceux qui l'ont fait disent que c'est casse-pattes, que ça monte, que ça descend, que c'est pas facile à gérer.
Ouais.
Donc je comprends. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en plus. Hein, moi, je me rappelle des discussions au club de gens qui disaient ouais, mais moi je fais que du plat, je fais un marathon, donc je vais courir que sur plat et tout. Et un entraîneur disait non, faut faire des côtes, faut faire des escaliers, faut faire des trucs comme ça et tout. Ça renforce, ça aide aussi. Tu sens une
Ouais, c'est vrai,
différence
ouais.
depuis que tu le fais en fait sur ta course, sur ta foulée, sur ta peut-être facilité dans certains exercices.
Ouais, parce que du coup, j'ai développé aussi, mine de rien, au fil des semaines, j'ai développé aussi la puissance que j'avais dans les jambes. Donc forcément, après, quand tu rebascules sur du plat pour les séances clés, bah, ça te permet d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus relâché. Et du coup, bah, tu es plus efficace, etc. Et l'allure, est plus importante. Donc forcément, ça te fait progresser, ouais.
Ouais. Bon, voilà. Un deuxième truc à mettre sur la liste pour ceux qui veulent progresser en marathon, n'oubliez pas de renforcer. Non, mais c'est du renforcement naturel. C'est vrai qu'on parle. Je sais pas si tu fais aussi de la musculation. Enfin, j'imagine gainage, des choses comme ça aussi. Je pense que tu as des choses comme ça aussi à côté.
Ouais, bah ça c'est justement c'est le deuxième axe on allait en venir sur lequel j'ai énormément travaillé pour ce deuxième marathon, ça a été la préparation physique, ouais, ça c'est clair. Alors j'ai bossé avec un préparateur physique pendant toute la prépa parce qu'on en a un bon là au Crêpes de Reims et on est passé à avant je faisais une séance par semaine et là je suis passé à 2 séances par semaine on va dire de fin août jusqu'au marathon début décembre quoi. Donc ça a doublé mes habitudes par rapport à ça quoi.
D'accord. Il te fait quoi? Soulever du poids, des choses comme ça? Enfin.
Ouais, alors j'avais déjà fait des protocoles de muscu lourde, mais là c'était plus des muscu d'endurance de force quand même. Mais en sachant que le lundi, en général, elle était assez light parce qu'il y avait forcément le gros bloc du week-end dans les jambes. Et le jeudi, on passait sur une séance vraiment costaud où là, pendant, ça pouvait durer 1 heure, 1 heure et quart. Et là, on enchaînait vraiment, on travaillait tous les groupes musculaires avec une pré-fatigue, un enchaînement assez costaud et derrière, pas mal de travail aussi, tu sais, de proprioception. Alors ça pouvait être au niveau des chevilles, mais aussi des fois du gainage, des exercices un peu hybrides où tu faisais du gainage et tu travaillais en même temps un autre groupe musculaire, bah pour habituer le corps à rester solide en fait du haut du corps, même quand tu as le bas du corps qui travaille quoi. Et ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Après bon c'est sûr qu'il faut connaître quelqu'un qui a une palette d'exercices assez large pour ne pas se lasser aussi de tout ce travail pendant 3 mois quoi.
Ouais. Bon, j'ai fait un épisode de Kilomètre 42, on a parlé de ce sujet-là la semaine dernière,
Ouais.
avec un bouquin, il y a 450 pages, avec un préparateur physique. Oh là là, quand je vois les exercices, je me dis, bon, après, il m'a dit oui, mais selon les niveaux, il y a plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a plein d'exercices, hein, il y a beaucoup de
Ouais, c'est
choses et
ça,
tout.
oui.
Et bon, après, il y a une adaptation aussi, tu l'as très bien dit, l'adaptation par rapport à ton entraînement pour que ça s'intègre. Parce que tu as parlé de 180 km par semaine de course à peu près.
Bah, mon premier marathon, j'étais monté à 180 4 fois, je crois. Enfin, j'ai fait 4 semaines à 180. Et là, pour mon deuxième, la prépa s'est beaucoup mieux passée. Donc, je suis monté même jusqu'à 215, ouais.
215.
Ouais, sur ma plus grosse semaine, ouais.
Bon, ça fait combien d'heures à peu près pour qu'on et combien d'entraînements? Tu répartis ça sur combien de séances, de
Alors,
jours?
moi, je répartis ça sur 9 à 10 entraînements, mais je vais jamais au-dessus. Donc, parce que j'ai eu pas mal de blessures au cours de ma carrière, et c'est vrai que le fait de limiter la répétition des entraînements, même quitte à en faire un peu plus, tu vois, à faire un entraînement mais un peu plus long, eh ben, ça me permet d'avoir plus de récupération aussi entre les entraînements et de pas me blesser. Donc, c'est vrai que pour beaucoup, ils font ça sur 12 ou 13 entraînements dans la semaine, et moi, je le faisais sur 10, on va dire, globalement. Donc,
D'accord.
ça représente à peu près 14-15 heures de course, quoi.
Ouais. Un temps partiel, mais un vrai temps à fond, quoi.
Ouais, bon, après ça tape pas mal, donc il faut récupérer aussi derrière, hein.
Ouais.
C'est au moins aussi important que le travail.
Et donc, ça veut dire que t'as quand même quoi? Tu mets un jour, 2 jours de repos par semaine ou?
Non, il n'y avait pas de jour de repos par contre, parce que c'était trop. Enfin, la prépa marathon, je fais toujours un jour de repos par semaine quand je suis en prépa pour la piste, etc., ou des distances plus courtes, mais pour le marathon, si, ça m'est arrivé de faire des jours de repos, mais c'était plus un toutes les 3 semaines que un toutes les semaines, quoi.
D'accord. Et comment justement, tu vois, parce que sur le plan, on va revenir un peu sur la nutrition, mais parce que on a dit, bon, il y a celle de la course, mais sur toute la partie pendant ta préparation, parce que on disait, tu es une Formule 1, tu connais tes données, etc. Donc tu sais aussi, tu as aussi mesuré, calculé un petit peu ce que tu devais manger, combien il te fallait, alors je sais pas comment tu mesures ça en calories, tu prends ça en protéines ou en quoi que ce soit. Tout ça, tu l'as travaillé ces dernières années-là?
Je l'ai travaillé, mais je l'ai pas mesuré parce
Ouais.
que je trouve qu'après ça devient trop, tu sais, ça fait trop robot en fait. Ouais, il faut que tu manges tant de grammes. Ça, c'est un truc que j'ai jamais aimé, et j'avais pas envie de tomber là-dedans. Mais c'est vrai que déjà naturellement, d'après ce que j'ai dit à Manu, bah justement, je travaille avec Aude Bazin, t'en parlais tout à l'heure, qui est nutritionniste à Reims, et c'est la nutritionniste du Krebs de Reims. Donc, je travaille avec elle depuis 2 ans par rapport à ça. Et en fait, j'avais déjà pris quand même plus ou moins des bonnes habitudes, parce que c'est vrai que ça fait quand même 10 ans que je suis athlète de haut niveau. Donc, ah, forcément, si t'es pas bon sur l'aspect nutrition, tu te blesses tout le temps, quoi. Tu peux pas t'entraîner autant. Donc, j'avais plus ou moins des bonnes habitudes. Après, c'était peut-être des réajustements, tu vois, elle m'a appris des trucs du genre, bah, peut-être manger plus de riz que les pâtes, parce que c'est vrai que les pâtes, c'est plus, tu vas être plus propice à avoir des inflammations sur tout ce qui est tendineux, etc. Après, ça a été beaucoup aussi des ajustements par rapport au bilan sanguin que j'ai fait sur les différentes carences que je pourrais éviter en prenant des compléments alimentaires.
Ouais.
Du coup, c'est vrai que là, ça fait 1 an et demi que je suis accompagné par une marque française qui s'appelle Nutripure, et du coup, qui fait un peu, bah, toutes les gammes de compléments alimentaires possibles. Et dès que j'ai une problématique dans un secteur, que ce soit tendineux, ou alors un peu de fatigue, ou alors si je suis en manque de vitamines, bah, ça me permet de réadapter avec ce qu'il m'envoie derrière pour pas avoir toutes ces carences-là, et rester en forme pendant toute la prépa, quoi. Donc c'est plus des petits détails, mais ça va être propre à chacun. Tu vois, après, il faut pas dire, enfin, c'est compliqué de globaliser tout ça et de dire, ouais, tout le monde doit manger ceci ou cela, quoi.
Ouais, mais c'est vrai que ça fait partie quand même de la comment dire de l'entraînement, cette alimentation, d'avoir de l'énergie, d'être en forme, d'être suffisamment d'énergie pour t'entraîner, suffisamment d'énergie pour bien récupérer, tous ces éléments-là.
Ouais, c'est ça, ouais.
T'es vraiment suivi, tu fais vraiment attention et tout. C'est vraiment un gros domaine de progression chez toi, ça.
Ouais, après, sur l'alimentation au quotidien, comme je te disais, moi, j'avais déjà quand même des bonnes habitudes. Mais comme je te disais, je crois qu'on avait parlé déjà pendant notre premier podcast, moi, si j'ai envie de me faire plaisir, d'aller manger une planche de charcuterie et de boire un verre de vin, je le fais, quoi. Pour moi, le plaisir aussi mental, il est important. Tu vois, on fait déjà un sport qui est difficile. on mange déjà bien 90% du temps, il faut quand même garder ces 10% du temps où si tu as envie de boire une bière ou du vin ou aller manger des cochonneries, bah faut garder aussi ce plaisir-là et se dire ouais bon bah j'ai le droit de le faire quoi, c'est pas interdit.
Bon, d'ailleurs, on avait fait un épisode sur le cheat meal avec Aude Bazin. Vous avez dit ce qui est passé du cheat meal.
Ouais, bah les Anglais, c'est une fois par semaine. Hein.
Elle t'en laisse un quand même, c'est vrai?
Ouais, j'en connais plein des mecs qui ont fait des jeux et tout, et eux, une fois par semaine, ouais, toute la journée, ils mangent que des cochonneries, quoi. Mais par contre, le lendemain, c'est reparti sérieux, quoi.
Bon, je vous laisse aller voir dans les archives, vous allez voir ce qu'elle en pense, comment le placer. Enfin, il y a toute une dimension hein, autour de ça qui est pas si simple que ça à gérer. Je sais pas toi comment tu le vois ça en fait. Quand tu vois les autres là comme ça qui sur une journée ils se font plaisir et tout. Toi comment tu gères ça en fait ces moments-là de tu dis je me une truc de charcuterie et tout. Comment tu vois ça toi?
Bah écoute que comme Aude a dû dire, j'ai pas écouté son podcast, mais je pense qu'elle t'a dit que d'éviter sûrement de faire ça juste après une sortie longue ou un truc où vraiment t'as puisé dans les réserves quoi. Donc souvent on a tendance à dire il faut que je mange bien avant ma compétition ou ma séance importante, mais une fois que t'as fait la séance et que t'es content de toi ou même si t'es pas content de toi et du coup tu te dis oh, je vais aller manger un McDo ou une connerie comme ça, bah ça c'est le truc qu'il faut éviter à tout prix. Parce que justement, quand tu as tout dépensé et que tu as bien tapé dans les réserves, c'est là justement qu'il faut bien manger derrière. Donc tous ceux qui vont au McDo après leur compétition, je les invite à attendre le lendemain plutôt, et de bien manger le soir et de se faire plaisir plutôt le lendemain quand on a une sortie un peu cool, un petit footing de récup, quoi. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi, quoi. Je veux dire, je ferai pas ça je ferai pas ça le dimanche soir après ma grosse sortie longue du dimanche matin, tu vois, par exemple.
Elle avait dit ça effectivement, et on en avait parlé aussi justement. Tu sais, après la récupération, alors par exemple, après comme ton marathon, tu vois, le marathon de Valence, en disant juste après, on a envie de fêter, alors que il faut aussi reconstituer, il faut aussi amener aux muscles de quoi repartir, enfin se
Ouais.
reconstruire quoi.
Exactement. C'est pour ça que moi j'ai travaillé aussi avec Aude là-dessus et ouais, elle m'a donné une recette de gâteau à préparer chez moi. C'est assez simple en général en plus. Alors du coup j'ai un truc que je me prépare avant la compète que je mange le matin. C'est un gâteau moi parce que moi j'aime bien la banane donc c'est un espèce de banana bread un peu amélioré. Et je mange ça. Tu peux le manger même jusqu'à 2 heures avant parce que ça se digère super bien. Donc c'est assez cool parce que t'es pas obligé de te lever trop tôt le matin avant ton marathon ou ton semi ou ton 10 bornes. Et j'ai aussi un autre gâteau justement pour recharger et refaire les réserves à manger juste après la course, justement quand t'as pas le temps et que t'as tendance à vouloir aller manger justement dans un fast-food parce que t'es loin et qu'il faut rentrer chez toi. Bah, au moins t'as ton gâteau qui est prêt dans le sac et tu le manges direct dans la foulée, donc c'est cool.
Ouais, ça c'est des bonnes astuces. Et c'est vrai, on en avait parlé justement. Elle avait dit justement d'anticiper un peu, de se préparer des trucs qu'on pouvait amener, etc. Même en club, tu sais, elle avait dit souvent dans les clubs, il y en a certains, ils amènent. On est tenté un peu parce que moi je l'ai eu après un trail. Un gars il dit ah, on va aller manger au McDo juste après. Moi je lui ai dit ah, oh, je lui
Ouais.
dis, moi je suis resté sur les chiottes pendant 2 jours après parce que mon estomac était, et l'intestin était en vrac. Et elle avait dit c'est une astuce et pour ça que ceux qui sont intéressés, allez réécouter cet épisode. Elle avait dit justement qu'on pouvait se préparer des choses à l'avance, justement pour avoir déjà tout sous la main et pas être tenté par d'autres trucs qui seraient néfastes à la récupération et puis que notre corps est pas tout à fait prêt à accepter. Parce que moi j'ai l'exemple de cet exemple-là, je te dis c'était pas du tout passé, mais c'est vrai que
Ouais.
sur des efforts longs, sur des efforts violents comme ça, il faut trouver les trucs qu'on va accepter, qu'on va tolérer, qui vont nous faire du bien, plaisir, mais qui vont aussi aider le corps à repartir et à bien se réparer, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est pour ça, c'est important que tu dises aussi qu'un truc qui fait plaisir, tu vois, mettre des ingrédients que t'aimes et que tu sais que bah, tu vas prendre du plaisir à le manger, que ce soit avant la course ou même après, quoi. De pas manger un truc parce que voilà, il faut récupérer et même si t'aimes pas, tu le manges. Non, il faut quand même garder, je pense, cette notion de plaisir et prendre un truc qu'on aime, quoi.
Ouais, banana bread. Moi, je retiens, une sorte de banana bread. Hop, je le marque sur ma petite liste.
Ouais, après, ça peut se faire avec d'autres fruits, hein, c'est pour ça que je te dis ça.
Ouais, mais moi, banane, ça me va bien, tu sais. mon truc, il me va très bien. Tant que je peux mettre un peu de beurre cacahuète, mais je sais pas si c'est autorisé chez Aude, un truc.
Ah bah c'est bon le beurre de cacahuète, moi j'en mange tous les matins. Hein.
C'est vrai?
C'est une source de protéines. Alors après, moi je le mets avec autre chose, tu vois, je mets de la confiture dessus, mais tu peux mettre aussi du fromage blanc, tu peux mettre des fruits, tu vois, que c'est des framboises, des bananes, enfin ce que t'aimes. Et ça, c'est super hein, comme petit déj le matin.
Je sais, c'est ce que je dis tout le temps, ça, les oléagineux, tous ces trucs-là.
Ouais, voilà, tu peux mettre ça c'est encore mieux, ouais, si tu peux mettre des amandes dessus et tout en complément, ça c'est que du bonus, hein.
Ouais. En plus, c'est des bons gras, on va le dire. Hein. Puis
Voilà.
avec la dépense calorique que tu as, avec le nombre d'heures d'entraînement, etc., enfin, c'est important. Hein. L'autre jour, c'était une discussion que j'ai eue sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui disait, bah, depuis que je cours, j'ai toujours faim. J'avais fait des recherches quand même. Quelqu'un comme Scott Jurek, qui fait partie des légendes de l'ultra, il consomme
Ouais.
4000 à 6000 calories par jour. Enfin, il les consomme
Ah
dans
bah
un
oui.
jour d'entraînement classique, tu sais, quand il prépare des ultras.
Ah bah c'est énorme.
J'ai essayé de me demander ce que ça faisait à manger. Je me suis dit, mais c'est juste dingue. En plus, il est végétarien. Donc,
Ah ouais.
je me dis, le volume que ça fait en cuisine et tout. Il faut vraiment être pro hein, pour avoir le temps de faire la cuisine de tout ça et tout. Parce que je dis,
Ah, tu
c'est vraiment
m'étonnes. Là,
important.
6 000, c'est énorme, ouais.
Ouais, mais c'est vrai. Et on avait vu des chiffres sur, comment il s'appelle, Phelps, qui mangeait 6000 calories par jour quand il nageait. Qui était... Bon, alors lui, c'était moins healthy, on va dire, hein, quand même. C'était plutôt McDo qu'autre chose. Pizza et tout. Mais c'est vrai que la dépense énergétique, la vitesse à laquelle tu cours, la récupération, tu parles de muscu, faut faire du muscle et tout aussi, c'est franchement capital, quoi. C'est-à-dire que ça sert à rien de courir si à côté, tu mets pas d'énergie dans le moteur.
Bah c'est ça, et puis si vraiment après à un moment donné tu veux optimiser ta récupération, je pense que le premier facteur ça passe par ce que tu vas manger, hein. De toute façon il n'y a pas de secret, hein. Donc c'est un des axes d'amélioration pour bah, ne pas se blesser, mieux récupérer des séances et du coup pouvoir mieux enchaîner aussi les autres séances derrière. Et après bah ça s'ajoute à ta progression qui fait qu'à la fin bah forcément tu iras chercher un meilleur chrono, quoi.
Est-ce qu'il y a des trucs quand même, tu te dis oui, je m'interdis pas, tu disais un verre de vin, achète de charcut, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a quand même des aliments où tu sais, où tu sens, où tu te demandes si tu les évites, ou en tout cas en période de prépa, tu vois, est-ce qu'il y a des choses quand même que dont tu te méfies un peu?
Franchement, ouais, on va dire l'alcool. Des fois, je fais attention quand même, parce que c'est vrai que moi, j'adore ça. Mais sinon, en nourriture, non, je m'interdis pas trop. Tu vois, j'essaie de garder toujours quand j'ai envie, sans en abuser, par contre. Tu vois, je veux dire, si j'ai envie de manger du saucisson, par exemple, je vais pas tout manger, tout le saucisson, quoi. Tu vois. Mais non, quelques tranches déjà, ça fait plaisir, ça fait du bien, comme je disais, au mental, et puis bah c'est pas grave, hein. De toute façon, comme tu disais, tu dépenses 3000, 4000 calories par jour, et tu vas pas prendre de poids dans tous les cas. C'est juste qu'il y a des aliments qui sont plus sujets aux inflammations, etc. Donc il faut faire attention par rapport à ça, mais bon, une fois de temps en temps, ça fait vraiment pas de mal en vrai.
Donc tu disais d'ailleurs, c'est intéressant sur l'histoire des pâtes hein, par rapport à l'inflammation. Donc plus riz que pâtes, c'est ça?
Ouais, plus riz, privilégier le riz ou les pommes de terre. Patate douce, c'est super aussi, elle me disait Aude. Après, c'est. Voilà, après, comme je disais aussi, rester dans un truc, celui qui n'aime pas la patate douce, bah tant pis, il mange des pommes de terre classiques, mais non, il y a plein de petits trucs comme ça qu'elle m'a appris aussi, ouais.
Ouais, bon, moi j'ai une recette de gâteau à la patate douce avec de la banane et patate douce.
Ah, c'est
Tac.
pas mal en vrai. Enfin, moi personnellement j'aime bien. Après il y en a beaucoup qui connaissent pas trop aussi, tu sais, la patate douce,
Ouais.
qui la cuisinent pas trop, mais ouais, il y a plein de possibilités. On peut même les faire en frites aussi, c'est sympa. En purée, comme tu disais, ou en gâteau, c'est bien aussi, hein.
Moi j'adore ça, donc franchement j'en mets partout. Je suis le seul à la maison à adorer ça, si en frites quand même, moi c'est un truc que j'arrive à faire passer à peu près par tout le monde. Mais par contre, tu vois, si je te posais la question aussi, c'est parce que tu vois, dans mes podcasts, j'ai eu des fois des gens qui disent, ouais, moi les produits laitiers, je vais éviter. Tu vois, parce qu'il y a ces histoires de dire oui, par rapport à, on parle de tendinite, de risques comme ça. Toi, le produit laitier, par exemple, t'en consommes?
Ouais, énormément, ouais. C'est vrai que moi je prends toujours du fromage pratiquement tous les midis, tous les soirs, yaourt aussi, j'adore. Donc non, après ouais, peut-être ne pas les arrêter totalement, mais si jamais tu as des tendinites chroniques ou à répétition, peut-être juste diminuer un peu, tout simplement, tu vois. Déjà de diminuer un peu, bah le corps ça va lui faire du bien. Mais après, c'est pas parce que les produits laitiers favorisent entre guillemets les tendinites ou les inflammations qu'il faut arrêter totalement.
Et puis, alors, je vais te dire en plus, c'est que j'en ai parlé à plein de coureurs et de tout niveau, et je pense que je n'ai jamais eu un avis formel, même les nutritionnistes et tout là-dessus. Je me demande à quel point ça fait partie des grandes légendes, en fait, cette histoire-là, et des croyances, et que
Ouais.
chacun arrive à le faire aussi à sa sauce. Je pense que si tu adores les produits laitiers, si tu adores le fromage et tout, et que tu tolères et t'es pas blessé, c'est dommage de t'en priver, quoi.
Ouais, c'est ça. Après, tu sais, on réagit tous différemment, donc enfin c'est difficile de donner des analyses concrètes là-dessus, quoi. Tellement on est tellement tout le monde est différent. Il y a des gens qui vont hyper bien réagir, il y en a qui vont réagir un peu plus mal. Donc non, ce qu'il faut, c'est trouver tout simplement le bon équilibre.
On avait parlé tout à l'heure, tu as parlé d'un truc sur les. Tu as parlé de prise de sang, de carence, de choses comme ça. C'est un sujet qu'on a abordé régulièrement sur les carences. Est-ce que toi, c'est un truc, tu surveilles régulièrement ça?
Au moins 2 fois par an, ouais, je fais un bilan quand même assez global, tu vois, enfin assez global. On reste quand même sur, ça va être du fer, etc. Tu vois, enfin des trucs basiques qui peuvent vraiment t'apporter, générer une fatigue si tu es en carence. Mais ouais, je pense que c'est important de vérifier quand même, bah, encore plus pour nous, parce que c'est vrai qu'on s'entraîne quand même 10 fois, tu vois, on disait 10, il y en a, ça monte jusqu'à 13 fois par semaine, donc forcément le corps, il n'est pas fait pour ça à la base. Mais ouais, tout simplement, si vous sentez, je sais pas, un petit coup de mou dans l'année qui serait difficilement explicable, bah pourquoi pas faire un bilan sanguin, c'est remboursé en plus, donc pour voir si s'il y a pas de souci par rapport à ça et éventuellement derrière ajuster. Tu vois, par moi, j'habite à Reims, c'est vrai que là ça fait, il y a pas beaucoup de soleil depuis quelques mois. Moi, je prends toujours à partir du mois d'octobre, novembre, je prends toujours mon ampoule de vitamine D 1 fois par mois pour bah, déjà pour éviter une carence à ce niveau-là. Ça peut être intéressant d'anticiper ça, quoi.
Ouais. Bon, je vais faire une blague à Reims en disant que le soleil, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup, mais comme je connais un peu Reims, j'y suis allé en été, donc j'ai vu un jour qu'il y avait du soleil aussi l'été.
Ouais, des fois il y en a, ouais, c'est rare, mais il y en a.
C'était la blague. Non, mais c'est vrai qu'il ne fait pas très chaud. Non, après, on va pas dire que ça soit la région la plus chaude de France. Hein.
Chaud, ça va, mais c'est plus la pluie et ouais, le manque de soleil, quoi, je dirais.
Ouais. D'ailleurs, ça, c'est un truc intéressant, ça, sur l'entraînement, parce que tout à l'heure, tu disais fond romeux. Tu vas faire des stages à l'étranger? Tu fais partie de ceux qui partent au Kenya, des trucs comme ça, ou pas?
Écoute, j'ai essayé, j'avais fait un stage de 2 mois au Kenya, mais ça s'était mal passé parce que j'étais tombé malade, que le mode de vie ne me convenait pas. Et justement, là, tu penses, pour le coup, tu penses qu'à l'entraînement, à manger et à dormir. Et ça, moi, c'est pas mon trip, tu vois. Je préfère, franchement, Font-Romeu, j'adore parce que c'est en France, c'est assez facile d'accès, t'as pas besoin de faire un long voyage en avion. Puis finalement, moi, j'adore les montagnes, les Alpes, les Pyrénées. Donc je trouve que c'est magnifique et du coup tu prends toujours du plaisir à aller courir dans ces paysages-là et puis Font-Romeu, c'est une des villes les plus ensoleillées de France, donc en général quand tu y vas t'as quand même des bonnes conditions, donc c'est tip top, quoi.
Ouais, et puis c'est vrai que par rapport à aller à ces marathons de Valence, c'est pas très très loin quoi, ça te coupe le chemin par
Ouais,
rapport à
c'est pour
Reims
ça
quoi.
que moi pour le semi et le marathon, ce que j'ai fait finalement c'est que je suis redescendu directement de Font-Romeu 3 jours avant. Je dormais à Barcelone le jeudi soir et après le vendredi et samedi soir, je dormais sur place à Valence, quoi. Ça me faisait un petit trip comme ça. Il y a 5 heures en gros de Font-Romeu à Valence, donc tu vois, tu coupes en deux, ça fait pas long, hein.
Ouais, et puis la route elle est sympa, le long de la mer et tout. Là. Moi j'ai fait ce bout de route là, un peu Valence, Barcelone et tout, donc je vois un peu
Ouais,
à quoi
c'est
ça
joli, hein.
ressemble. Ouais, c'est sympa. Puis bon, il fait toujours chaud, mais non, mais parce que c'est vrai qu'en plus, donc tu disais parcours plat, température idéale, hein, on dit, hein, il y a des températures 13-14 degrés, c'est là où finalement on dit que c'est les meilleures conditions, hein, grosso modo, pour
Ouais,
performer,
c'est ça.
pour être à la bonne température, quoi.
Ouais, exactement, on va dire entre 8 et 12, quoi. En général, c'est top, quoi.
Comment tu vois, toi, d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais, on a un gros plateau français là, avec beaucoup de marathoniens de très bon niveau. Moi, j'ai l'impression que pendant des années, on disait, on n'a pas de marathonien en France, marathon, c'est la France, c'est incompatible. Tout d'un coup, on vous voit tous là débarquer. Puis alors, à des vitesses, vous êtes dans les trois quand même. Donc, il y a Mehdi Frère, Nicolas Navarro, qui, eux, sont déjà qualifiés. Hein. Eux, ils sont prioritaires pour aller aux JO, hein, c'est ça hein.
Ouais, en gros, ils sont déjà qualifiés. Ouais, il reste plus qu'une place.
Ouais. Comment tu expliques que vous soyez aussi nombreux comme ça là sur j'ai envie de dire sur la ligne de départ alors qu'à un moment donné on a l'impression qu'il n'y avait plus grand monde?
Bah, tu sais, déjà, t'as un mec comme Navarro qui est pas si vieux que ça. Je crois qu'il doit avoir 32 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et il a vraiment évolué au fil du temps, quoi. Je veux dire, c'est un mec qui a démarré autour des 2,29, 2,30 et qui à chaque fois a baissé son chrono progressivement. Donc finalement, bah là, ça fait quelques années qu'il a trouvé une régularité en dessous des 2,10, ce qui en fait quand même un adversaire redoutable au niveau français pour choper une place dans les trois, surtout les championnats. Il est souvent présent quand même.
Ouais.
Après, tu as un gars comme Morad Amdouni, bah, qui était un phénomène sur piste, qui est monté sur marathon et qui a fait le record de France en 2,5-22. Donc, tu as un mec comme Hassan Chadi, pareil, qui est un phénomène depuis qu'il est plus jeune, et depuis qu'il est monté sur marathon, bah, il commence à atteindre aussi son plein potentiel. Et puis derrière, tu as des jeunes ou des mecs un peu moins jeunes comme moi qui sont un peu entre les deux. Tu vois, moi j'ai 29 ans, donc j'arrive aussi à un âge où tu commences à pouvoir percer sur ces distances-là. Et il y en a qui tout de suite ont vu qu'ils n'avaient pas trop, entre guillemets, le niveau pour percer au niveau mondial sur la piste, tu vois, comme Mehdi Frère ou comme Abderrazak Charik, et qui se sont rendus compte assez jeunes qu'ils avaient un énorme potentiel sur la route et sur les longues distances. Et ce qui fait que Mehdi Frère a fait 2h05 alors qu'il doit avoir 26 ou 27 ans. Et Abderrazak Charik, pareil, 26 ans, il a fait 2h08 pour son troisième marathon à Amsterdam, tu vois, donc dans des conditions difficiles en plus. Donc il y a aussi l'émulation autour des Jeux Olympiques de Paris 2024. Forcément, pour les Français, c'est une chance, c'est une opportunité unique de pouvoir avoir, de pouvoir représenter son pays à domicile. C'est une fois tous les 100 ans. Et nous, on a la chance d'être de cette génération-là. Donc, on a aussi conscience de ça et on n'a pas envie de passer à côté. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui font que bah, le niveau aujourd'hui est monstrueux et que ouais, derrière le Kenya et l'Éthiopie, je pense que la France, aujourd'hui, c'est un des pays les plus difficiles au monde pour se qualifier sur un marathon, hein.
Il me semblait avoir vu que t'as pas d'autres disciplines dans lesquelles tu pourrais tenter ta chance si t'as pas sur marathon.
Si, le 10 000 mètres.
Ouais.
Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il faut faire deux gros 10 000 pour passer au ranking. Et moi, j'ai jamais réussi au cours de ma carrière à enchaîner deux gros 10 000. J'ai souvent réussi à en faire un bon, mais le deuxième, j'étais moins performant derrière. Donc, je pourrais éventuellement tenter ma chance, mais sans vraiment y croire à 100%. D'autant plus que j'ai réalisé les minima pour les championnats d'Europe de Rome sur semi-marathon. Et du coup, bah, enfin, j'ai l'intention quand même d'y participer sur cette discipline-là, parce que je me sens bien aussi sur semi, et je pense que je peux jouer un gros coup là-bas sur cette distance. Donc, je ne me vois pas faire le 10 000, quoi.
Ouais. Même au Stade de France et tout, enfin.
Bah, disons que si, ça aurait été sympa de faire les Jeux au Stade de France sur 10 000, mais je suis aussi conscient qu'aujourd'hui, au niveau mondial, sur 10 000 mètres, je suis très loin de pouvoir
Ouais.
briller. Alors que là, sur marathon, avec le finish que j'ai fait à Valencia, avec le parcours qui est hyper vallonné et qui est propice à d'énormes surprises, plus la chaleur, je sais qu'en se préparant super bien à la perfection, c'est pas impossible qu'il y ait un Français qui fasse un énorme coup là-bas. Donc, j'aimerais bien faire partie de ces Français-là. Ouais.
Ouais. Tu disais, c'était intéressant tout à l'heure, tu disais l'histoire là, t'as, de la stratégie, de la course, etc. Il y a des notions d'équipe, parce que tu as des meneurs d'allure, en tout cas sur les courses. Aux Jeux Olympiques, t'as pas de meneur d'allure, j'en sais rien d'ailleurs.
Non, il n'y a pas de lièvre aussi, tu vois. Il y a plein de choses qui font qu'en fait, ça favorise un peu les mecs comme nous qui sont pas très loin du très très haut niveau mondial autour des 2h02, 2h03,
Ouais.
et qui du coup, bah, ça nous ouvre des fenêtres pour être très très bien placés. Bah, Hassan Chadi l'a prouvé à Budapest, hein, en allant chercher la 7e place alors il devait avoir le 35e ou je sais pas, il était loin dans les temps des engagés, tu vois.
Donc finalement, il y a des, enfin, je sais pas après si on peut dire, est-ce qu'il y a des stratégies potentielles qui peuvent se dire si trois Français, est-ce que vous pouvez faire une sorte de course d'équipe pour essayer de bien vous placer, enfin des choses comme ça, ou ça peut être imaginable des choses comme ça ou pas? Moi, je m'en rends pas du tout compte, tu vois.
Je suis pas sûr parce que en fait on a tous des qualités différentes, tu
Ouais.
vois. Moi j'ai des grosses qualités de finisher, donc ça m'avantagerait pas de partir trop vite. Tu vois, mais un mec comme Mehdi Frère, c'est un mec qui va vouloir courir la même allure pendant 42 bornes et qui aime pas trop les changements de rythme. Navarro, il a aussi plus ce profil-là, donc non, ça me paraît difficilement envisageable. Et puis je vois pas trop l'intérêt dans le sens où il y a énormément de mecs qui courent plus vite que 2h05 aujourd'hui dans le monde. Et que du coup, même en imposant un rythme, pour eux, ça resterait entre guillemets facile, tu vois. Donc, il n'y aurait pas trop d'intérêt à faire ça.
Ouais. On va dire un mot quand même parce qu'il y a quelques jours, le recordman du monde est mort, du marathon.
Ouais.
Donc là, quand même, enfin, déjà, c'était compliqué de donner des gens, des favoris sur le marathon de Paris, sur le marathon olympique potentiel et tout. Là, bon, lui, malheureusement, En plus, on le voyait bien passer sous les deux heures quand même. Alors, pas à Paris, hein, mais sur un marathon plat. T'arrives à imaginer des favoris potentiels sur une course comme les Jeux Olympiques?
Ouais, bah évidemment, il y aura Eliud Kipchoge qui est double champion olympique en titre. Hein, donc, lui, ce sera le grand, grand favori. Je veux dire, même si Kiptoum n'était pas décédé et aujourd'hui, c'est clairement le plus fort au niveau mondial. Je pense qu'Eliud Kipchoge, il a toujours prouvé qu'en championnat, il était très très bon. Il n'est jamais très rarement passé à côté, tu vois. Déjà en 2003, il était sur le podium, il était champion du monde du 5000 mètres à Paris. Donc, tu vois, c'est aussi pour montrer la régularité du mec, quoi, à très haut niveau. Et il était champion olympique à Tokyo en 2021 sur le marathon. Donc, bah forcément, ce sera un des mecs sur qui il faudra compter. Hein, et je pense que ce sera, ouais, forcément le grand favori de cette course. Hein.
Ce qui est quand même extraordinaire, je sais pas toi ce que tu en penses, mais Kipchoge, qui était champion du monde du 5000 mètres à 18 ans, en 2003, donc il y a
Ouais.
21 ans, c'est la longévité de cet athlète quand même. C'est inspirant pour toi?
Ah bah c'est exceptionnel, hein. Pour moi c'est du calibre de Nadal, Federer, Djokovic au tennis. C'est des mecs qui ont vécu que pour ça, quoi. Parce que forcément, pour maintenir ce niveau-là, il faut vivre comme un moine, entre guillemets. Et puis il faut garder la passion, la foi, C'est comme les Ronaldo, les Messi, les mecs qui ont toujours été motivés pour trouver de nouveaux objectifs, de nouveaux records à aller chercher. Et tu vois que le mec aujourd'hui, même s'il a 40 ans, qu'il est double champion olympique, multiple fois champion du monde, et ben il a toujours la même motivation. Il a réussi à passer sous les 2 heures, même si c'était pas homologué. Ben, c'était quand même un truc de fou. Et là, aujourd'hui, il a envie d'aller chercher un troisième titre sur marathon parce que ça n'a jamais été fait dans l'histoire. Donc, non, je trouve que c'est beau. Hein.
Tu l'as déjà rencontré?
Ouais, j'ai même une photo avec lui.
En fait, tu sais, c'est la question que je pose. T'as couru avec lui ou enfin les enfin t'as fait des courses avec lui?
Kiptoum, j'avais couru avec lui lors de mon premier. Enfin, couru avec lui. On était sur la même ligne de départ. Et Kipchoge, non, jamais eu l'occasion de courir avec lui, ni à l'entraînement, ni en compétition, non.
Je sais pas si Kiptoum, comment tu voyais, mais vous êtes sur la même ligne de départ, mais finalement, enfin, à votre allure, la vitesse, elle est quand même énorme, le différentiel, parce que ça paraît quelques minutes comme ça, mais sur, c'est-à-dire que comment dire, tu les vois comment, c'est un Kipchoge, tu vois, par exemple, comment toi, quand t'es sur la ligne de départ, alors Kiptoum et tout, comment tu vois, tu les regardes comment ces mecs-là, en
Bah, ce qui est
fait?
marrant, c'est que bah, c'est vrai que le marathon, c'est plus. Tu vois, autant la piste, c'est hyper élitiste. Et t'as quand même une sorte de barrière entre les athlètes que t'as l'impression qu'il faut pas franchir. Autant quand tu passes sur la route, c'est tellement populaire, t'as 50 000 personnes sur les gros marathons. Donc, t'es dans un état d'esprit totalement différent et tu te mélanges vachement plus, je trouve, au public. Et tu vois, même un gars comme Cheptegei, le recordman du monde du 5000 et du 10 000. Tu vois, on a déjà discuté ensemble comme ça, normal, alors que peut-être que sur la piste, on ne l'aurait pas fait, tu vois. Mais comme je te dis, l'état d'esprit est vraiment différent, t'es plus détendu, et du coup, ça fait que bon, quand tu arrives sur la ligne de départ, même si tu es derrière Kipchoge ou Kiptoum, t'es pas stressé comme tu pourrais l'être dans un autre contexte, quoi.
Ouais, bah
Puis c'est
écoute.
des mecs qui sont franchement, les Kenyans en général, enfin tous les champions que j'ai rencontrés, que ce soit Rudisha, Kipchoge ou Kiptoum, c'est des mecs qui sont hyper simples, hyper gentils. Je veux dire, tu peux leur parler, ils te répondront normalement, et ils n'ont pas du tout la grosse tête ou quoi que ce soit, tu vois. C'est ça qui est bien aussi dans notre sport, c'est que tout le monde est abordable et tout le monde est plutôt sympa quand même en général, quoi.
Bah écoute, c'est cool, hein. C'est pourvu que ça dure le plus longtemps comme ça, en tout cas. Bah écoute, merci en tout cas pour tous les détails que tu as donnés, parce que tu nous en as donné beaucoup. Bon, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, mais ça c'est mon petit truc à moi, c'est hors alimentation, c'est sur le sommeil, le repos. On parlait des Kenyans, justement, tu sais, tu me disais, ça s'entraîne, ça court, ça mange, et ça dort. Toi, le sommeil, c'est comment tu gères ça? T'as un temps de sommeil, c'est quelque chose que tu essaies de développer aussi, sur lequel tu fais attention?
Ouais, alors moi j'ai une routine quand même depuis beaucoup beaucoup d'années parce que ça fait ouais, depuis 2018 que je suis professionnel, donc ouais, le sommeil c'est forcément un facteur hyper important dans la récup. Donc ouais, ça va être au moins d'avoir 8 heures, 8, 8, 9 heures par nuit de sommeil, plus quand je double et que je fais du bi quotidien, bah de faire une sieste entre les deux. Alors là, ça c'est variable, ça peut aller de 30 minutes à... Ça m'est déjà arrivé de faire des siestes de plus d'une heure.
Ouais.
Mais en général, on va dire grosso modo entre 30 minutes et une heure, quoi. Et là, ça permet de récupérer plus vite et d'être plus performant derrière, ouais, pareil sur le deuxième entraînement, quoi.
Voilà, bah écoute, c'était juste ce que je voulais savoir, comme quoi, tu vois, parce qu'on le dit, il y a ceux qui pensent qu'ils sont super performants en dormant que 5-6 heures. La science dit que non, et les champions disent que non aussi. T'en es une preuve.
Il y en a peut-être, hein, mais en tout cas, moi, je pourrais pas.
Ouais, non, mais scientifiquement, en fait, y en a très très peu. Et on le sait aussi, parce que j'ai fait un jour un épisode, tu sais, sur Dante, qui est le joueur de Nice, tu sais, qui a 40 ans,
Ouais.
qui est professionnel
Ah ouais.
à Nice et tout, et qui avait un coach sommeil à Nice et tout. Ils ont eu un coach sommeil au Bayern de Munich, où il a joué, tu vois, qui leur a donné toutes les astuces
D'accord.
ou les conseils. Et il dit que lui, il a toujours beaucoup dormi, tu vois, ça fait partie de ses grandes stratégies d'avoir toujours beaucoup dormi, et ce qui explique aussi sa longévité, son niveau de performance et tout. Et c'est vraiment, tu vois, un élément, et tu le confirmes. Quand tu dis tu dors 8-9 heures et puis des siestes et tout, ça montre à quel point aussi ça fait partie aussi de l'entraînement, ces éléments-là.
Ouais, puis même le confort aussi de l'endroit où tu dors, etc. C'est important, tu vois, d'avoir un bon matelas, des bons oreillers. Moi, je sais que là, j'ai trouvé un partenaire là-dessus très récemment, et depuis que j'ai changé le matelas et puis les oreillers, je sens que je dors mieux aussi, tu vois. Ça peut paraître con, mais c'est des petits détails qui font que bah, tu améliores d'1% à chaque fois ta récupération, et puis bah, ça se répercute derrière sur le résultat, donc c'est intéressant, quoi.
Ouais, et tu sais, et c'est pas con du tout, parce que Dante justement disait qu'il se déplace avec son oreiller. Ils ont leur propre oreiller
Ouais.
chacun, tu sais, dans les hôtels, et les équipes font attention à ce que la literie soit bonne dans les hôtels où ils vont, mais en fait, ils se déplacent avec les oreillers. Il racontait qu'un de ses coéquipiers, un jour, n'avait pas le bon oreiller, il avait un torticolis pour le lendemain pour jouer, c'était quand même pas super pratique. Donc,
Ah
tu vois, ça fait partie, non mais c'est vrai, hein, ça fait partie de tous les détails, et quand on est à ce niveau-là, tu fais partie des meilleurs mondiaux quand même en marathon. On comprend que tous ces détails-là soient importants, et que, comment bah, ça joue, hein, et comment ces éléments, bah, quand tu les ajoutes les uns aux autres, expliquent que tu sois capable de courir. On va le rappeler quand même, hein, ton temps au marathon, redis-le là juste comme ça, qu'on le réimprime bien.
2h06:46.
Voilà, 2h06:46. Est-ce que tu t'es fixé un temps que tu pourrais courir, une limite, ou tu te dis on verra jusqu'où ça peut aller?
Alors, j'ai pas de limite parce que c'est vrai qu'il y a aussi l'évolution technologique qui fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai réalisé un chrono que, enfin, je suis conscient aussi que j'aurais pas pu réaliser ce même chrono si j'avais pas eu l'apport des chaussures carbone. Donc après, on peut pas savoir, hein, ce qu'il va y avoir encore d'ici là. Ça peut être des évolutions au niveau de l'entraînement. Tu vois, là, maintenant, je fais un protocole aussi quand je vais à Font-Romeu où je fais des footings à 5000 mètres d'altitude. Ça me permet de progresser aussi. En fait, il y a plein de petits trucs qui viennent s'ajouter au fur et à mesure de l'évolution des méthodes d'entraînement et des méthodes de préparation. Donc, c'est difficile de fixer une limite. Mais moi, si j'avais un objectif, hein, dans un coin de ma tête, ce serait de faire le record de France du marathon un jour, quoi. J'aimerais bien. Donc là, il est à 2,5,22, mais bon, peut-être qu'il sera encore plus bas. Enfin, je suis même pratiquement sûr qu'il va bientôt baisser. Donc, j'aimerais bien être le premier à le faire baisser, quoi.
Bah écoute, c'est ce que je te souhaite en tout cas. Si j'ai bien compris, c'est au 30 avril 2024 que on connaîtra le tu connaîtras ta si t'es au jeu ou pas, c'est ça à peu près, hein?
Ouais, normalement, ouais.
Ouais.
Peut-être un peu avant. Ça dépendra s'il y a d'autres Français qui courent d'ici là ou pas, mais. On aura déjà une idée après ce week-end parce que Morad Hamdouni recourt à Séville et apparemment il est en forme. Donc bah écoute, on attend de voir ce qu'il fait et puis bah on verra bien.
Bah écoute, en tout cas, je te souhaite le meilleur, et j'espère, hein, te voir au jeu, te regarder. Moi, ça sera à la télé, hein, parce que
Ah merci, c'est gentil.
qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à part regarder la télé? J'ai même pas eu mon dossard pour le marathon pour tous, tu sais, qui se court sur
Ah
le même
mince,
parcours et tout.
ouais.
Ouais, bah écoute, non, c'est comme ça. Je te dis pas, si tu vas pas faire le marathon pour tous si jamais t'as pas ta place au marathon, enfin.
Ah oh non, parce que comme je t'ai dit, moi du coup, enfin, ce serait aussi l'opportunité de faire un autre type de marathon. Et je me dis pourquoi pas New York, donc ce serait plus sympa pour moi de préparer New York, je pense.
Ouais,
Ouais.
Je comprends bien. En plus, c'est une belle aventure New York. Et tous ceux qui l'ont fait ont dit que c'était dur, mais qu'ils ont passé un super moment et que c'est une autre ambiance, ouais. Un autre monde,
ouais,
etc.
Il paraît que c'est un truc de fou et j'ai envie de voir ça en vrai.
Ouais. Et ben écoute, en tout cas, je te souhaite d'être au jeu. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as partagé, pour tous les conseils, pour la vision aussi. Puis comme ça, on connaît bien aussi les coulisses d'un athlète pro, hein, d'un champion comme toi.
Ouais.
Pour t'encourager, alors, tu es sur Instagram?
Ouais, Instagram, Facebook, enfin tous les trucs Strava, tous les trucs des un peu basiques, quoi.
Voilà. Eh bien, écoute, tu sais, moi, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Donc, quand vous écoutez, vous regardez dans la description de l'épisode, il y a les liens pour qu'on vienne t'encourager. Je te souhaite, en tout cas, une belle saison, hein, belle préparation.
Merci.
J'espère que tout va bien se passer, qu'on pourra te voir à la télé aux Jeux Olympiques et que tu seras fier, hein, en tout cas, de ta saison, que tu pourras vivre les... un bon moment, hein, c'est tout ce que je te souhaite.
Bah écoute, j'espère aussi, merci beaucoup et à bientôt Bertrand.
Et bah écoute, à bientôt, et puis nous, écoutez, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je vous dis pas l'invité, mais je crois qu'on parlera encore de marathon et d'alimentation marathon, ouais, parce que on sait, hein, vous êtes un bon paquet à préparer le marathon, donc on continuera dans les conseils pour les appliquer tous à notre niveau. En tout cas, je clôture cet épisode, je te remercie encore une fois Félix, et nous on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao ciao.
Salut, à bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.